Chapitre 5. Quelques mots sur la laideur. Camilla arriva à Essarington désolée. Toute espérance était éteinte dans son cœur. Elle avait acquis une certitude plus cruelle, quoique moins choquante pour sa sensibilité, que le coup que lui avait porté Miss Margland. « Il ne prend aucun intérêt à moi, se dit-elle. Il me destine même à un autre, il s'est fait l'agent du major. Il me doterait, je crois, tout exprès, pour se mettre dans l'impossibilité de jamais penser à moi. Et j'imaginais qu'il m'aimait. Quel songe, quelle illusion! Combien il m'a trompée! Combien me suis-je trompée moi-même !» Elle était bien aise pourtant d'avoir fait une réponse si décisive relativement au major Sherwood, qui, présenté sous ce point de vue, lui devint absolument odieux. Le récit qu'elle avait à faire à M. Tyrold du chagrin et de la triste résolution d'Eugénia empêcha qu'on ne s'aperçût de son propre trouble. M. Tyrold fut touché de la narration qu'elle lui fit. « Hélas, dit-il, votre excellente mère avait toujours prévu qu'il arriverait quelque malheur du soin extrême que l'on prenait de cacher à cet enfant sa malheureuse situation. Ce terrible coup aurait pu du moins être adouci par les leçons du courage dont cette digne femme aurait armé son âme jeune et docile. Mais je n'ai pu résister aux instances de mon pauvre frère, qui, s'imputant ses malheurs et supposant à tout le monde un cœur aussi bon que le sien, pensait qu'elle n'apprendrait jamais ce que sa famille ne voulait pas lui dire. » Camilla, constamment occupée de sa sœur, perdit un moment le sentiment de ses propres peines. Pendant 3 jours, elle se dévoua tout entière à Eugénia. Le matin du 4e, au lieu d'envoyer la voiture, Sir Hugh vint lui-même et dit à son frère qu'il fallait qu'il vînt consoler Eugénia. Car, quoiqu'il eût cru la première violence de sa douleur apaisée, parce qu'elle était tranquille devant lui, il avait surprise versant des larmes lorsqu'elle se croyait seule. Il avait fait inutilement, dit-il, tout ce qu'il avait pu. C'était à M. Tyrold à essayer lui-même son influence. « Car, ajouta-t-il, il faut rendre au docteur Orborne la justice de dire qu'elle a plus d'instruction que nous tous ensemble et que nous n'avons pas assez d'esprit pour lui répondre. » Il lui conseilla donc de mettre dans sa poche un de ses meilleurs sermons pour le lui lire. M. Tyrold fut extrêmement touché de l'état de sa pauvre Eugénia. Cependant, il avait affaire pour une demi-heure dans le voisinage avant de pouvoir aller à Clèves. Sir Hugh l'attendit. À son retour, tous trois partirent ensemble. Eugénia reçut son père avec une froideur étudiée qui l'affligea. Il vit combien était profonde l'impression qui maîtrisait son âme. Après une courte conversation générale, à laquelle elle ne prit aucune part, il proposa de faire dans le parc un tour de promenade. Son projet était de la prendre à part et d'amener plus naturellement l'occasion d'un entretien particulier. Les dames et Sir Hugh se mirent à chercher leurs gants ou leurs chapeaux. Mais Eugénia, prétextant un léger mal de tête, remonta dans sa chambre. « Voilà, cher frère, dit Sir Hugh, la suivant tristement de l'œil. Voilà précisément pourquoi j'ai besoin de vous. Elle dit que tant qu'elle vivra, elle ne veut point passer cette porte, ce qui, certes, est fâcheux à penser, sans compter qu'on ne sait comment, clairement, pour apprendre cela. » Cependant, il est heureux que je l'ai accoutumé dès l'enfance à la lecture des anciens. Voilà la seule chose que j'ai faite de moi-même. Car pour parler grec et latin, ce qui sera, je crois, leur principale occupation, on sait que cela peut se faire aussi bien dans le coin d'une chambre que dans les rues ou dans les champs. M. Tyrold, après quelques moments de réflexion, la suivit. Il frappa à sa porte. « Qui est là ? » demanda-t-elle avec humeur. « Votre père, ma chère Eugénia, » répondit-il. Alors, ouvrant la porte, elle lui proposa de descendre avec lui. « Non, lui dit-il, je voudrais vous parler seul. Je viens juger si je me suis trompé dans l'opinion que j'ai toujours eue de votre cœur et de votre intelligence. » Eugénia s'assit tranquillement auprès de lui. « Ma chère Eugénia, dit-il en lui prenant une main, « voici le moment où je regrette plus amèrement que jamais l'absence de votre inestimable mère. Je n'ai rien à vous dire qu'elle ne pût vous représenter bien mieux que moi, et ses avis auraient été reçus avec attention. » « Ma mère ignore-t-elle donc, monsieur » dit-elle d'un ton de reproche. qu'une légère connaissance des livres et des langues est la seule chose que l'on m'ait apprise ?»« Nous ne sommes tous que trop portés, » dit M. Tyrold avec douceur, quoique un peu surpris, « à n'estimer que ce qui nous manque, à ne désirer que la possession de ce que nous n'avons pas. Combien de gens sans éducation regarderaient vos connaissances comme une compensation suffisante pour toute espèce de maux ?»« Ils pourraient penser ainsi, monsieur, s'ils vivaient comme moi, » toujours enfermés dans la même maison, s'ils ne voyaient jamais que les mêmes personnes, s'ils ne se doutaient pas des sensations qu'ils pourraient exciter dans les autres. Ma chère Eugénia, quelque affligée que je sois de l'objet actuel de vos pensées, je me réjouis de vous trouver capable de réflexions et de combinaisons supérieures à votre âge. Et c'est une idée consolante pour moi que de penser à la bienveillance du Tout-Puissant jusque dans les circonstances les plus fâcheuses. Car si le hasard vous a maltraité, la nature, dans sa prévoyance maternelle, a pris plaisir à vous douer des qualités les plus capables de vous dédommager des injures du sort. Je pénètre, monsieur, dit-elle, votre obligeante intention, mais j'ai trop réfléchi sur ma situation et ma destinée pour adopter des consolations illusoires. Pouvez-vous, en effet, à présent que mes yeux sont ouverts, vous flattez de réconcilier avec son sort une pauvre jeune personne qui se voit, pour tout l'univers, un objet de dégoût et de mépris, qui, sans avoir commis aucun crime, sans avoir jamais fait tort à qui que ce soit, ne peut paraître nulle part sans être insultée, bafouée, montrée au doigt. Oh, mon enfant, par quel trait vous déchirez mon cœur et détruisez votre propre félicité ? Les misérables qui peuvent envisager de la sorte des défauts extérieurs sont au-dessous du mépris. Il ne faut pas seulement les dédaigner, mais les oublier. Faites, ma chère, une conquête sur vous-même. Élevez vos sentiments au niveau de votre intelligence et rappelez-vous ce mot admirable d'Addison dans Le Spectateur. Un sentiment trop vif des défauts personnels est une des plus grandes faiblesses de l'amour-propre. « Je serais fâchée, monsieur, que vous attribuassiez à l'amour-propre ce que je souffre en ce moment. La vraie cause est de n'avoir jamais su, jamais soupçonné que ma raison dût m'imposer de si grands efforts et, par conséquent, de ne m'être jamais préparée à les faire. Oh, si je suis mère un jour, mon premier soin sera d'instruire mes filles de toutes leurs infirmités. Elles seront familiarisées dès l'enfance avec leurs propres défauts. » Ma bien-aimée, que leur âme ressemble à la vôtre, et vous ne verrez personne dont l'opinion ait quelque prix, qui ne les aime et les honore. Le bien et le mal sont beaucoup plus également divisés en ce monde que vous ne paraissez le croire. Personne ne possède le premier sans mélange, ni le second sans dédommagement. Indiana, par exemple, est dans la fleur de la jeunesse et de la beauté. Eh bien, dites-moi, demandez-vous à vous-même si vous voudriez changer avec Indiana. « Avec Indiana ? » s'écria-t-elle. « Ah, je donnerais tous les biens de l'univers pour changer avec elle. Indiana, qui ne paraît jamais que pour être admirée, qui ne parle que pour être applaudie. » Interrogez-vous cependant. Examinez un moment avant de vous résoudre à vouloir changer avec elle. Voyez combien est courte la durée de ces applaudissements qu'arrachent aux autres les avantages extérieurs et combien, dans la solitude ou le repos, ils sont inutiles à qui les possède. Voyez, au contraire, pour apprécier vos propres trésors, combien sont précieuses ces qualités de l'âme dans le chagrin, dans la retraite, dans les jours de la vieillesse et des infirmités. Croyez-moi, monsieur, je ne veux pas dire que je m'afflige de ne pas être aussi belle qu'Indiana. Je sais, et j'ai toujours ouï dire, que sa beauté est au-dessus de toute comparaison. Je savais aussi que je ne pouvais pas disputer d'agrément avec mes sœurs. Je savais que je n'étais pas belle, mais je supposais que plusieurs autres ne l'étaient pas et que je pouvais passer comme les autres. J'imaginais que le monde était plein de gens défigurés comme moi par accident ou par maladie. Je ne pensais à cela que fugitivement. Jamais mon esprit ne s'était arrêté à ces idées jusqu'au moment où des insultes non provoquées m'ont tout à coup ouvert les yeux et m'ont montré à moi-même. Comment me supporter dans le premier moment de cette terrible conviction ? Bien des gens ont éprouvé de grands maux, mais sur qui se sont-ils accumulés autant que sur moi ? Monsieur Tyrold l'embrassa tendrement. « Ma chère fille, lui dit-il, Que ne voudrais-je pas souffrir, quel sacrifice ne ferais-je pas pour adoucir cette cruelle amertume jusqu'à ce que le temps et la réflexion aient exercé leur influence ?» Il la serrait contre son sein avec la plus tendre émotion. De ses yeux coulaient des pleurs sur les joues de sa fille. Eugénia les sentit, et tombant à terre, « Oh, mon père !» s'écria-t-elle, « une larme de vos yeux m'afflige plus que tout le reste. Que je n'en fasse pas couler d'autres, de malheureuse que je suis, je deviendrai coupable. » « Eh bien, dites-moi donc, ma pauvre enfant, que vous combattrez ce chagrin inutile. Dites-moi que vous emploierez ce courage qui n'attend que votre volonté. » « Je ferai tout, tout ce que vous désirez. Je renonce à mon injustice, je réprimerai mes plaintes. Mon tendre père, vous avez vaincu. Votre indulgence, votre bonté me feront oublier toutes mes peines et ne laisseront de place dans mon cœur qu'à la tendresse filiale. » Saisissant ce moment d'attendrissement, il la pria de renoncer à son plan de solitude. « La honte et les craintes qui l'ont fait naître, lui dit-il, ne feront qu'augmenter si vous les écoutez. Elles ne sont pas dignes du courage que je vous veux inspirer, du courage de la vertu, mon Eugénia, de celui qui fait mépriser l'insolence des cœurs durs et l'ignorance du vulgaire. Le bonheur dépend de vous, mais non la beauté. Mettre à celle-ci une trop haute valeur ne serait excusable que dans un esprit faible ou frivole, puisque malgré toute l'admiration qu'elle attire, il n'est pas une bonne qualité, pas une perfection qui en soit indépendante. Et vous verrez dans le cours de votre vie que tous les esprits capables de justice vous en estimeront davantage pour avoir su souffrir de grands malheurs sans les mériter. » La voyant radoucie, quoique non encore tout à fait consolée, M. Tyrol sonna, puis dit au domestique qui monta de prier son frère de faire mettre sur le champ les chevaux, parce qu'il était obligé de retourner chez lui. « Et vous, ma fille, dit-il à Eugénia, vous m'accompagnerez. Ce sera l'effort le moins pénible que vous puissiez faire pour surmonter l'aversion que vous avez à quitter la maison. » Eugénia n'osa pas résister, mais sa complaisance contrariait évidemment son inclination. S'étant approchée de la glace pour mettre son chapeau, elle s'en éloigna bien vite en frémissant et cacha son visage avec ses deux mains. « Ma chère enfant, dit M. Tyrold, la serrant encore dans ses bras, cette vive susceptibilité s'affaiblira promptement. Mais vous ne pouvez y résister. Songez à ce que serait le sort d'Indiana si vos destinées étaient renversées et si, ne pouvant jamais avoir vos lumières, puisqu'elle n'a pas vos moyens, elle perdait cette beauté, son seul avantage. Tandis qu'elle ne serait pour vous, si vous l'aviez conservée, qu'une qualité du second ordre. Combien est court le règne de tous ces charmes! Combien ils sont inutiles dans la maladie! Combien ils sont peu de choses dans la solitude! Combien ils tiennent peu de place dans une longue vie! Combien, dans la vieillesse, il en reste peu de souvenirs exempts de remords! Vous vivrez assez pour voir d'un œil de pitié toutes celles que vous enviez aujourd'hui, pour sentir combien votre instruction et votre intelligence rendent votre sort préférable au leur, et pour vous dire, avec une surprise mêlée de repentir, « Il fut un temps où j'aurais voulu changer avec Indiana, qui n'était que belle. » On avertit alors que la voiture était prête. Eugénia descendit avec regret. On appela Camilla pour se joindre à sa sœur, et Sœur Hugues les vit partir ensemble avec le plus grand plaisir.